Emmanuel Bove. Visite d'un soir. D'où venait que j'étais triste? Mes livres, tous mes livres, dormaient dans la bibliothèque. Personne n'avait dit de mal de moi. Aucun souci n'importunait ma famille et mes amis. Je me trouvais au milieu de toutes choses. Je n'avais donc pas à craindre que les événements, libérés de ma présence, ne prissent une direction qu'il m'eût été impossible de modifier. Je n'étais pas mécontent de moi, et même si je l'avais été, cela n'eût pas eu la force de ce que je ressentais. Il était 11 heures du soir. Une lampe sans abat-jour éclairait ma table de travail. Je n'étais pas sorti de la journée. Quand le grand air n'a pas rougi mon teint, je ne suis pas à mon aise. Mes poignets sont plus lisses. Il m'est un peu désagréable de remarquer que le duvet qui les recouvre est plus soyeux. Et la force y d'employer, avec laquelle il faudra que je dorme, me gêne. Je somnolais dans un fauteuil. À l'endroit où le velours rouge rencontre le bois, des pointes à tête dorée maintiennent un liséré. L'une d'elles manquait, et là, le liséré était plus lâche. J'étais immobile. Seule ma main tiraillait, sans que je m'en aperçusse, ce liséré, cherchant inconsciemment à faire céder la pointe suivante. Ce ne fut que lorsque je parvins à cette fin que je me rendis compte de ce que je faisais. À cette découverte, j'éprouvai une joie légère. Il en est ainsi chaque fois que je me surprends à agir sans le savoir ou que je mets à jour un sentiment qui était en moi et que j'ignorais. Cela me réjouit autant qu'un rayon de soleil ou une bonne parole. Ceux qui me reprocheraient cette petite joie ne me comprendront jamais. Il me semble que chercher à se connaître est pur. Me reprocher de trop me pencher sur moi-même serait me reprocher d'être heureux. Mais il faut dire que cette joie est bien fragile. Elle n'a pas l'égalité de celle que nous donne un rayon de soleil. Vite, elle disparaît, et c'est autre chose que je cherche en moi pour la renouveler. Il m'apparaît alors, dans les intervalles, que tout m'est hostile, et ceux, à la joie simple qui m'environne, sont en réalité plus heureux que moi. Je lisais lorsqu'on frappa. C'était mon ami Paul. Il entra en coup de vent et la porte qu'il avait lancée derrière lui pour qu'elle se fermât seule s'arrêta en chemin. « Qu'as-tu, Paul ?»«
Rien !»
Son visage était pâle et ses yeux plus sombres que d'habitude. Il se laissa tomber sur le divan qu'il savait d'où.
« Mais qu'as-tu ?»
Il se leva, marcha dans la pièce, cependant que je posais mon livre, alluma une cigarette, puis se rassit. Il fumait, comme les nerveux, une cigarette trop molle. De temps à autre, il crachotait des brindilles de tabac. «
Je t'en supplie, Paul, dis-moi ce qui t'est arrivé. »
Je le regardai. Je m'efforçai de trouver dans son attitude un geste, une expression qui me rassura. Mais rien. S'il avait tenu un objet, ses doigts eussent tremblé. Il devait s'en douter, car il évitait de toucher quoi que ce fût.
« Paul, je suis ton ami. Raconte-moi tout. Tu sais bien que si je puis faire quelque chose pour toi, je n'hésiterai pas. Cela me fait mal de te voir ainsi, sans que je puisse seulement te venir en aide. »
Il était en proie à un énervement tel que j'étais seul à entendre mes paroles. Je les voyais passer autour de sa tête sans jamais atteindre ses oreilles. Il semblait que les mots fussent des balles que je lançais mal. Et justement, au moment où, lassé de sa distraction, je ne prêtais plus attention à ce que je disais, il parut m'écouter. Avec précaution, il s'approcha de moi. On aurait dit qu'il craignait que le moindre bruit n'eût fermé ma bouche. Il la regardait en clignant des paupières auxquelles manquaient des cils. La clarté de la lampe, qui glissait sur la rondeur de ses yeux, en effaçait la couleur. Il éclata de rire. Oui, il éclata de rire. Ses doigts, dont les ongles minces épousaient la chair au lieu de s'imposer, tremblaient l'un après l'autre. Quelques dents que je ne connaissais pas m'apparurent au fond de sa bouche, des dents semblables aux autres, mais auxquelles je n'étais pas habitué. Elles me révélaient des mystères physiques. J'eus conscience de n'avoir plus en face de moi un ami, mais un homme comme moi. Et cela fit plus pour m'attendrir que son attitude désespérée.
« Pourquoi ris-tu ? Eh, je ne sais pas. C'est vrai, je ne devrais pas. » Et il riait toujours. Le nez semblait plus long au milieu des contractions du visage. La bouche, qui avait perdu la cadence de la respiration, cherchait à se reprendre. Comme il fallait, malgré tout, que dans ce désordre, Paul respirât, son souffle vibrait sur le palais avant de s'échapper. Enfin, il s'assit plus calme. Sans doute, à cause de cela, il m'apparut que sa douleur n'était pas si grande qu'elle le paraissait. Un tramway passa dans la rue. Était-ce parce que la pluie n'avait pas cessé de tomber, mais il me sembla, au vacarme qu'il faisait, que le courant avait plus de vigueur. Il y eut un silence. Quand le roulement d'un taxi le troublait, j'écoutais le bruit jusqu'à ce qu'il devint imperceptible. Et tant que mon attention n'était pas distraite, je l'entendais encore, bien qu'il n'existât plus. Une lumière rose, projetée de l'extérieur, éclairait un endroit du mur où il m'eût été difficile de placer un tableau. Mon ami ne bougeait pas. Ayant entrouvert la bouche une fois pour toutes, il respirait faiblement, la langue repliée pour ne pas être gêné. Et ses cheveux, qu'il n'avait pas caressés de la main, étaient en désordre. « Dis quelque chose, Paul !» Ses yeux quittèrent la flamme réconfortante de la lampe, semblèrent suivre le vol d'un oiseau, puis se posèrent sur moi. Il baignait dans un vernis profond, frangé par l'ombre des cils. Sans doute parce que chacun d'eux vivait intensément, il m'apparut clairement qu'ils étaient au nombre de deux. Quant à mon regard, je sentais, quoiqu'il fût plein de compassion, qu'il n'était pas loyal. J'eus beau écarquiller les yeux pour le rendre meilleur, ce fut inutile. Paul me prit la main. Je l'interrogeai. « Mais dis-moi ce qui t'est arrivé !» Il se pencha pour me prendre l'autre main, qui était assez éloignée de lui. Il le fit avec douceur. Puis il commença de parler. Les premières phrases, je ne les entendis pas, occupé que j'étais à chercher sur les traits de mon ami la marque de la douleur. J'attachai plus d'importance à elle qu'à ce qu'il allait me raconter. Car quand un homme souffre, que peut-il nous dire que nous ne connaissions ? Jean, il vient de m'arriver un grand malheur. À présent, il était calme. Sous l'épaisseur de ses vêtements, on devinait qu'il ne tremblait pas. La clarté de la lampe nous dépassait. Nous nous dressions au milieu d'elle, sur l'enchevêtrement des barreaux de chaises. Tu sais, mon cher Jean, combien grande est l'amitié que j'ai pour toi. Nous nous sommes connus pendant les heures difficiles de la guerre, et tout de suite, sans que le danger y fût pour quelque chose, nous avons été attirés l'un vers l'autre. Tu me lisais tes lettres, je te lisais les miennes. Et nous avions assez de confiance pour ne rien nous cacher. Nous nous fâchions parfois, et quoique nous soyons l'un et l'autre assez rancuniers, nous ne tardions pas à nous réconcilier. Nous étions de vrais amis. Te souviens-tu de la démobilisation ? Te souviens-tu de notre joie d'être enfin libre ? À ce moment, le bonheur de chacun était si grand que tous nos camarades ne pensaient plus à l'amitié. Nous, nous n'avons pas été ainsi. Ce fut les larmes aux yeux que nous nous sommes séparés. T'en souviens-tu ? Tu es venu à Paris tandis que je partais pour le Midi rejoindre ma fiancée. Quelques mois après seulement, je t'ai retrouvé par hasard. Comme nous avons fêté cette heureuse rencontre, quelle nuit ! Eh bien, mon ami, c'est au nom de cette amitié sans tache que je te demande de m'écouter. Je veux croire que ma présence chez toi, à cette heure, ne t'est pas pénible. Nous avons passé trop de nuits blanches l'un à côté de l'autre pour que tu ne veuilles pas en passer une dernière. Elle sera moins dangereuse que les autres, mais elle sera beaucoup plus triste. Avant, nous espérions quelque chose quand nous ne dormions pas. Aujourd'hui, tout est changé. Cet exorde peut manquer de naturel. Il est évident qu'un homme qui souffre, quand il se confie à son ami, ne remonte pas aux origines de l'amitié qui le lie à lui. Mais ici, c'est d'un cas particulier qu'il s'agit. Paul et moi, en réalité, nous ne sommes plus des amis. Nous l'avons seulement été pendant la guerre. Aussi était-il naturel que, ce soir-là, pour donner à nos vagues relations d'aujourd'hui l'importance qu'elles eurent, Paul me parla de ce que nous avions été l'un pour l'autre. Mon ami, qui s'était interrompu, tira son mouchoir et s'épongea drôlement les sourcils, avec l'insistance, avec le soin qu'il eût pris pour tout le visage. Je le regardai de côté pour ne pas le gêner. Il se leva, ôta son pardessus et se rassit sur la chaise plus vaste. Sans l'ampleur de son vêtement, il m'apparut plus déprimé encore. Ses mains étaient mal à l'aise dans les petites poches de la veste. Tout ce qu'il recouvrait semblait ne plus lui appartenir. Soudain, il éclata en sanglots. De ses mains, il se cacha la figure. Je ne vis que le bas de son visage. Le menton se contractait au point de laisser apparaître des fossettes à des endroits imprévus. Avez-vous déjà vu ces fossettes ? Elles sont faites de petites rides qui tremblent, qui s'évanouissent, qui reparaissent ailleurs. Il pleurait. Quelles sont tristes les larmes que l'on cache ! Pourquoi ne pleurait-il pas le visage découvert ? J'aurais pu le consoler. Mais ainsi, replié sur lui-même, il était bien seul avec sa douleur. « Paul, Paul !» dis-je d'un ton éploré. « Mon Dieu, comme ma voix me sembla ferme ! Il est vrai que, pour soulager quelqu'un, il n'est point nécessaire de souffrir aussi. C'est un ton familier, bonhomme, qu'il faut, ce ton que tout le monde prend, parce que tout le monde a compris avant moi qu'il n'en existe pas d'autre qui puisse consoler. « Paul, enfin, ce n'est pas sérieux. Tu viens me raconter tes malheurs et tu te mets à pleurer comme un enfant. Allons, Paul, un peu d'énergie. Tu sais bien que je suis ton ami et que je ne demande qu'à te venir en aide. Allons, sois raisonnable. Nous sommes des hommes. C'est ridicule de pleurer ainsi avant d'avoir examiné ce dont il s'agit. Il sera bien temps, après, s'il n'y a pas de solution, de pleurer. » Mon ami devait attendre certainement non pas ces paroles qu'il n'écouta même pas, mais ce ton de consolation, car il releva la tête. Il avait pleuré trop peu de temps pour que ses yeux fussent rougis. Le seul fait de passer son mouchoir sur son visage suffit à effacer toute trace de ses larmes. Comme je l'eusse fait à sa place, il commença par s'excuser d'avoir pleuré. Il le fit en des termes que je tiens à relever, parce qu'ils sont communs à tous les hommes. « Excuse-moi, Jean, ça a été plus fort que moi. Mais ce n'est rien, ce n'est qu'un instant de faiblesse. Si tu savais ce qui vient de m'arriver, tu comprendrais. » Son mouchoir, mouillé par les pleurs, prenait peu de place dans sa main. Une larme qu'il ignorait brillait encore sur sa joue. « Écoute, Paul, raconte-moi tout. Je pourrais alors te dire ce qu'il faut faire. » « Oui, Jean, je vais tout te raconter. Ne m'en veux pas si je suis si ému. » « Tu connais Fernande, tu sais comme je l'aime. » Je ne connaissais pas Fernande, et si j'approuvais de la tête, je vous assure que ce ne fut pas par indifférence, ni dans la crainte que mon ami ne cherchât à me prouver que j'avais déjà vu sa femme, mais simplement pour ne pas le contredire. Je devinais trop ce qu'une contradiction jetterait de trouble dans son esprit. Paul parlait sans le moindre geste, comme un malade. De temps en temps, il lançait un coup d'œil sur la porte, et cela suffisait à lui faire perdre le fil de sa pensée. On eût dit qu'il lisait et que son regard, distrait un instant, ne retrouvait plus la ligne qu'il venait de quitter. Et je l'écoutais quand il ne disait rien, avec la même attention, pour qu'il se remît le plus vite possible. « Jean, vois-tu, je vivais dans la paix. Je suis un homme simple, de goût modeste. » Malheureusement, ma bonté est trop grande. Ma femme, ma chère femme, me l'a souvent reproché, non qu'elle eût désiré que je fusse méchant, mais plutôt parce qu'il lui est désagréable de savoir que ce n'est pas seulement pour elle que je suis bon. Jamais je n'ai élevé la voix. Bien que j'eusse souvent eu des motifs de le faire, j'ai toujours compris que l'ampleur de la voix n'ajoutait rien au sens des paroles. Ce soir, en te parlant, j'obéirai à ce principe. Je te dirai tout le plus simplement du monde. » Paul s'interrompit une seconde. Il faisait continuellement le simulacre d'avaler quelque chose, ce qui soulevait légèrement son double menton. Ma vie était paisible. Parfois, l'impression qu'un jour, il faudrait bien qu'un malheur arrivât, gâchait un peu mon bonheur. Mais cela ne durait pas. Il aurait fallu que j'eusse vraiment eu une tendance maladive à voir le mal partout pour ne pas être heureux. Souvent, nous partions, ma femme et moi, pour la campagne. C'était alors l'émerveillement devant la nature. Nous nous extasions sur la perfection des insectes et des végétaux, et, aussi invraisemblable que cela paraisse, je sentais avoir, aux yeux de Fernande, l'explication de mystères que je ne comprenais pas. Il y avait pourtant une petite ombre à notre bonheur. Nous n'avions pas d'enfant. J'ai honte de te l'avouer, mais même cela protégeait notre bonheur. Quand nous nous rendions chez des amis, tout dans notre attitude disait notre regret de n'avoir point d'enfant. Notre tranquillité était donc bien à l'abri, puisque nos amis nous plaignaient intérieurement. La vie s'écoulait ainsi sans heurts, sans la moindre querelle. Et parfois, je dois te le dire, à la pensée que j'étais heureux en me donnant si peu de mal, je me demandais si je l'étais vraiment. Mais ce doute, je le chassais le plus vite possible, car je savais bien que si l'on m'eût prié de donner une image du bonheur que je rêvais, j'eusse bien été forcé de parler de celui que je possédais. Aimer, être aimé, faire ce que bon nous semble, avoir des amis fidèles, jamais une dispute, jamais de maladie, que peut-on souhaiter de plus quand on a l'âme simple et confiante? Que peut-on souhaiter de plus, je te le demande? Il n'y a tout de même pas plusieurs façons d'être heureux. C'est bien le bonheur que de n'avoir aucun souci, que d'aimer. Il ne me semble pas que le vagabond sur la route, qui, pauvre malheureux, ne sait pas où il couchera le soir, soit heureux, bien que certains le prétendent. Paul s'interrompit de nouveau, non pas comme on le fait après une période, mais pour chercher ses mots. Ses lèvres remuaient. Il fit un geste et, finalement, parvint à continuer. Il était 8 heures quand je rentrai chez moi. Je posai mon chapeau et retrouvai Fernande dans notre chambre. Allongée sur un divan, ma femme m'apparut plus belle que jamais. Elle avait les yeux fermés, mais je savais qu'elle ne dormait pas. Elle tenait un livre avec la grâce d'une personne qui s'est assoupie en lisant. Je m'approchai d'elle et l'embrassai sur le front, de mes lèvres seulement. Elle sursauta avec raffinement, non pas au moment où je l'embrassai, mais quelques secondes après. « Toi, Paul ?» Tu sais comme il est difficile de donner à deux mots une intonation douce. Pourtant, si tu avais entendu le ton sur lequel elle murmura « Toi, Paul ?», tu aurais été charmé. Puis elle referma les yeux sans me cacher son visage, avec cette confiance des femmes qui aiment. Fernande ferme souvent les yeux. Elle les ferme au théâtre, à table, partout. Il ne se passe pas de jour sans que je la voie devant moi, les yeux clos, bien qu'elle ne dorme pas. Il semble qu'elle supporte mal le spectacle de la vie, que tout lui semble si banal qu'en fermant les yeux, elle pense ne rien perdre. Quoique nous fussions mariés depuis 4 ans, je n'ai jamais su discerner si, en cela, il y avait une part de tromperie. Je ne fis rien pour la tirer de ce faux sommeil. Je m'assis près d'elle et attendis. Longtemps, je restai ainsi, sans même oser lire un journal. J'aime Fernande et il me semble normal de veiller sur elle. Puisque cela l'amusait de faire semblant de dormir, pourquoi l'en aurais-je empêché? La regarder, sans qu'elle me vît, était pour moi une joie. Elle avait lâché le livre, sans doute pour que son sommeil parût naturel. Il glissait doucement. Je le laissai tomber. Elle ouvrit les yeux. « Paul, pourquoi n'as-tu pas pris le livre ?»« Je te regardais, ma chérie. » Je compris alors, en l'espace d'un instant, qu'elle avait deviné que je doutais de son sommeil. Et, au lieu d'en être un peu gênée, elle dit d'un ton sec, comme pour se venger, « Me regardais-tu vraiment ?» Puis le silence s'établit entre nous. J'aime le silence près de ma femme, je ne crois pas à la communion des âmes, mais enfin, le soir, dans le silence, près de celle que l'on aime, il y a tout de même quelque chose. Paul se leva subitement. Il lâcha mes mains, poussa sa chaise du pied. Il était en proie à des sentiments si divers que je n'aurais su dire si c'était de la colère, de l'émotion, de la peur, de la haine. Je me sentais perdu devant lui. Je suis assez bon psychologue, mais seulement quand les gens sont calmes. « Écoute, Jean, Tout sur terre suit la même loi. Parti d'un point, un homme, un animal, un arbre, grandit, puis tout doucement décline. Comprends-tu ? Tandis que dans l'esprit de Fernande, un sentiment, au lieu de naître humble et fragile comme toute chose, a jailli tout puissant d'une manière monstrueuse. D'après ce que je viens de te dire, tu devines que nous étions heureux, que rien ne troublait notre paix. Alors, comment t'expliquer ce qui s'est passé ? Tu veux savoir ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est simple. Comme cela, tout d'un coup, sans raison, au moment où je demandais à Fernande de venir dîner, elle s'est levée brusquement comme je viens de le faire, elle a poussé du pied sa chaise et elle m'a dit « Je ne t'aime plus, demain je partirai ». As-tu entendu ce que je viens de dire ? Demain, elle partira. Elle ne m'aime plus. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Suis-je fou ? J'en viens à me demander si le calme de ma femme ne cachait pas depuis toujours cet accès. D'abord, je crus qu'elle s'amusait à imiter une actrice. Souvent, elle le fait en exagérant. Non, ce n'était pas cela. Elle ne m'aime plus. Demain, elle partira. Je regardais Paul. Il faisait maintenant des gestes désordonnés. Tantôt, il levait les bras au ciel, tantôt, il se tordait les mains au point de se casser un doigt. Il allait et venait à travers la pièce, se tournait brusquement, repartait, s'attardait loin de moi et, tout à coup, se rapprochait à grands pas, comme s'il marchait sur une route. « Paul, sois calme, tout n'est pas perdu. Elle a peut-être dit cela sans penser. » Il fit tomber un livre qu'il ne ramassa pas. « Il ne faut pas t'émouvoir ainsi. » Alors, soit qu'il fût pris d'une rage subite, soit qu'il voulût faire preuve d'énergie, il frappa à plusieurs reprises le parquet du talon. « Je te jure qu'elle m'a dit cela. Elle partira demain. Elle ne m'aime plus. »« Mais si, elle t'aime. » »« Crois-tu donc que je sois fou ? Tu n'as pas compris ce que je viens de te raconter ? Je n'invente rien. » Elle a dit qu'elle ne m'aimait plus, elle a dit qu'elle partirait demain. Comprends-tu ? C'est clair, il me semble. Cette façon de me parler sur un ton insolent me déplut. Je ne cherchais qu'à le réconforter et il me répondait ainsi. Nous n'étions pas, après tout, de si grands amis pour qu'il se permît de me traiter de la sorte. Quand on vient raconter ses ennuis à quelqu'un, il faut au moins être poli. Je vous assure que si la douleur de Paul ne m'avait pas paru si sincère, je lui eusse répondu sèchement. Je levai les yeux. Paul était assis sur le divan. Toute sa colère avait disparu. Il avait l'air si malheureux, si accablé, que mon mécontentement s'envola. Pauvre Paul, tu souffrais. Toi qui, pendant la guerre, me parlais de la paix avec tant de feu, toi qui attendais d'elle tant de joie, comme tu dois être déçu. Et dire qu'un instant, je t'en ai voulu d'être nerveux. » Mon ami, bien qu'il eût à peine pleuré, était dans cette demi-inconscience qui suit les sanglots. Il regardait un coin de la chambre sans même l'avoir choisi. Ses mains étaient éloignées l'une de l'autre, alors que, quand on souffre, elles semblent comme deux amis ne pas vouloir se quitter. Le dos voûté, la tête de côté, il rêvait. « Paul !» Il ne répondit pas. Paul, sois courageux. Je le serai. On n'entendait aucun bruit, pas même celui que devaient faire dans la nuit les derniers autobus. Nous restâmes ainsi plusieurs minutes sans bouger. Soudain, d'un mouvement si brusque qu'il me fit sursauter, Paul se leva, fit quelques pas, s'agenouilla trop près de moi. Jean, je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Toi, peut-être, tu pourras tout arranger. Tu es mon ami, tu es presque mon frère. Nous avons été malheureux ensemble. » Je baissai la tête et rencontrai le regard éploré de Paul. Ce regard, je m'en souviendrai toute ma vie. Humble, désespéré, plus bas que moi, il m'apparut comme celui d'une bête à ma merci. « Paul, relève-toi, je ferai tout ce que je pourrai. » « Jean, si tu voulais, tu irais voir Fernande tout de suite, tu lui dirais comme je l'aime, tu lui dirais comme je souffre, tu parlerais pour moi, et peut-être regrettera-t-elle. »« Oui, Paul, j'arrangerai tout. » Mon ami se releva difficilement en s'aidant d'une chaise, tituba un peu et s'assit. Son visage s'était éclairé. Ses yeux plus grands me regardaient sans humilité. Il respirait avec mesure. Et pour la première fois, il fit un geste normal, celui de chercher sa montre. Il pleuvait encore, mais à présent, la pluie était si fine que lorsque je passais la main sur mon pardessus, je l'effaçais. Elle mouillait à peine, comme les jets d'eau quand il y a du vent. Elle faisait un halo de poussière aux lumières de la rue. Nous marchions d'un bon pas sans parler. Comme mon ami demeurait tout près de chez moi, nous ne tardâmes pas à arriver devant sa maison. « Jean, allons dans ce petit bar. J'ai encore à te parler. » Nous entrâmes. C'était un petit café très propre. Il y avait des glaces partout, et malgré cela, aucune d'elles ne refléta notre image. Le nickel, les verres, le comptoir d'étain donnaient à la lumière la fraîcheur de l'eau. Un peu de sable grinça sous nos pas. C'était auprès d'une source que nous étions venus nous asseoir. Un garçon s'approcha. Sa main gauche, repliée, semblait cacher une cigarette. Nous prîmes deux cafés. Pour qu'ils n'eussent pas un goût de fer, nous ôtâmes nos cuillers. Jean, écoute-moi. Puisque tu as la bonté de bien vouloir te rendre chez Fernande, laisse-moi te remercier de tout mon cœur. Mon bonheur est entre tes mains. Je n'ai pas le courage de t'accompagner. Je t'attendrai ici. D'ailleurs, il vaut bien mieux que tu sois seul. Tu vois dans quel état je suis. Dis-lui que je ne pourrai pas vivre sans elle. Dis-lui que je l'aime au point de donner ma vie pour elle. Je n'ai peut-être pas toujours bien agi, mais dis-lui que maintenant je lui obéirai, que je serai son esclave. Je suis prête à tout pour qu'elle reste, pour qu'elle veuille bien continuer la vie que nous menions. Je l'aime tant, Fernande. Tu peux faire de moi le plus heureux ou le plus malheureux des hommes. » Le petit café était silencieux. Le patron comptait déjà son argent. Le garçon, adossé à un pilier, nous regardait de temps en temps. Quant à Paul, à cause d'une habitude qu'il avait sans doute prise avec sa femme, il me tenait la main. « Alors va, Jean, je t'attends là. Ah, comme je voudrais déjà savoir. Si tu réussissais, mon Dieu, à lui faire comprendre comme je l'aime, il me semble que je danserais, que je sauterais, que je crierais de toutes mes forces. » Je me levai. Comme chez lui, Paul m'accompagna jusqu'à la porte du café. Jamais je n'avais vu un homme si ému. Je sentis qu'il cherchait un dernier mot à me dire, un mot qui résumât sa douleur, son espoir, et qu'il ne le trouvait pas. Je n'entreprendrai pas de faire le récit de la visite que je rendis à Fernande. Tout ce que je puis dire, c'est qu'elle me reçut très mal. Aux questions que je lui posais, elle me répondit invariablement par ces mots « Je suis libre de faire ce qui me plaît ». J'eus beau lui dépeindre la douleur, l'amour de son mari, elle ne se départit pas de son attitude. J'avais cru, d'après les propos de mon amie, qu'elle était sinon belle, du moins jolie. Pas du tout. C'est une femme assez corpulente, assez commune, et que je m'imagine mal dans les attitudes alanguies que me dépeignait Paul. Elle parle d'une voix désagréable, agressive. Je ne dirai pas qu'elle a des apparences de mégère, mais il s'en faut de peu. En outre, elle me paraît très insolente. Je sais bien que ma visite, à une heure aussi avancée, n'appelait pas la bonne humeur. Mais tout de même, vis-à-vis d'un étranger, elle aurait dû se mieux conduire et ne pas afficher sur son visage l'ennui que ma présence lui causait. Elle pensait peut-être que c'était par désœuvrement que je prenais la défense de son mari. Elle eût dû, pourtant, se douter que cela m'ennuyait autant qu'elle, et me savoir gré de défendre avec tant de feu un homme qui, après tout, est son mari et qu'elle a dû aimer, quoi qu'elle en dise. Et plus je réfléchis à cette visite, plus il m'apparaît qu'il n'eût pu arriver rien d'autre que ce qui est arrivé. Je vous assure que si j'avais su que cela se terminerait de cette façon, je ne me fusse pas dérangé. Paul, naturellement, n'est pas responsable le malheureux. Il croyait bien faire. Mais je ne comprendrai jamais que l'on puisse s'attacher à une telle femme. Elle devait influer sur chacun de ses actes. Et sans doute, la colère qu'elle a eue en me voyant vient-elle de ce que Paul a pris la liberté de m'envoyer à elle. Elle n'a pas pu supporter l'idée que son mari ait fait quelque chose de lui-même. Elle s'est vengée sur moi. Vraiment, il faut être bon comme mon ami pour ne s'être jamais fâché. Mais enfin, tout cela ne me regarde pas. Ce qui me déplaît surtout, c'est cette manière désinvolte, autoritaire de me recevoir, alors qu'en somme, c'est aussi bien dans son intérêt que dans celui de son mari que j'agissais. Ce n'était pas la peine de s'efforcer de paraître la victime de deux hommes. Paul a peut-être fait des choses que j'ignore. Mais moi, je suis venue simplement pour tâcher de faire entrevoir à Fernande ce qu'elle méconnaissait chez son mari. C'est tout. Je n'ai pris parti pour personne. Et si elle m'avait bien reçue, si elle m'avait répondu avec clarté, je n'aurais eu aucune raison de lui en vouloir. Enfin, tout cela ne fait que confirmer ce que je pense sur le monde. Qu'elle fasse ce qui lui plaît, cela m'est bien égal. Quant à Paul, je le plains de tout mon cœur, car il me semble que, quelle que soit la solution de cette histoire, il ne sera pas heureux. Quand je quittais la femme de mon ami, la pluie avait cessé. Je fis quelques pas sans en avoir la complète certitude. Puis je levai la tête. Le ciel, profond et noir comme le marbre avant qu'il sèche, était constellé. Au loin, le nuage long et sans hachure, qui flotte toujours après les pluies, était au bas du ciel. Les étoiles clignotaient dans l'air lucide, comme si un vent céleste les menaçait. La rue était encore mouillée, mais sans boue, comme après les orages. Et la lune blanche, immatérielle, montait à un point inattendu de l'horizon. Je rejoignis Paul dans le petit café. Il me guettait à travers un rideau, assis comme les enfants, de côté sur une banquette. Quand je fus près de lui, il se retourna et, les mains sur la table, me regarda en face. Il cherchait à deviner, avant que je parlasse, ce qui s'était passé. Il n'osait me le demander. Il y avait une telle détresse dans ses yeux qu'ils m'apparurent prêts à se fermer. Il semblait que les paupières se baisseraient au moindre souffle, qu'elles ne se tenaient pliées qu'à cause de la rondeur des yeux, qu'un regard de côté les eût fait glisser. « Paul ! Alors ! » J'étais incapable de prononcer un mot. Le désespoir dans lequel allait sombrer mon ami m'effrayait. Je m'attendais à une telle douleur et à de tels cris à l'annonce de la décision de sa femme que je ne me résolvais pas à lui raconter ma visite. J'attendais qu'il se doutât de l'attitude de Fernande à mon silence. « Jean, qu'a-t-elle dit ?»«
Elle veut partir. »«
Elle veut partir ?»«
Oui. »
Mon ami semblait ne pas comprendre. Il tremblait, mais son visage était impassible. On eût dit qu'il n'avait compris que physiquement. Une grande pitié m'envahit. Je m'assis à côté de lui et, le prenant par les épaules, je m'efforçais de le réconforter. « Tu es jeune, Paul. Tu as toute la vie devant toi. Aie du courage. Tu verras que tu connaîtras encore des heures de bonheur. Cette femme n'a pas su t'apprécier et t'aimer comme elle eût dû le faire. J'ai compris à son attitude qu'elle était trop légère pour toi. Elle regrettera plus tard ce qu'elle a fait, car, crois-moi, elle ne trouvera jamais chez un homme tes qualités. Laisse-la partir, et si un jour tu la rencontres, sois distant. » Puisque plus rien ne peut la retenir, et au moins la force de sembler ne pas tenir à elle. Il n'en faudra pas davantage pour la mortifier profondément. Sans toi dans la vie, c'est une femme perdue. Tu étais pour elle non seulement un mari, mais un père. Cela, elle le comprendra un jour. Il sera malheureusement trop tard. Elle avait besoin d'un homme comme toi pour être heureuse. Elle ne l'a pas compris, c'est dommage. Quant à toi, tu l'aimais trop pour ne pas souffrir de sa conduite, tu l'aimais trop pour ne pas la regretter. Je le sais, mais il faut réagir. Doucement, tu oublieras. Et puis, qui sait, un jour, tu rencontreras une autre femme, plus belle, plus intelligente, qui t'aimera de tout son cœur. Pendant que je parlais, Paul me regardait avec un étonnement que je ne m'expliquais pas. Sa bouche entr'ouverte et son front ridé lui donnaient une expression ahurie. De temps en temps, il détournait la tête avec rapidité, puis, de nouveau, fixait un regard plus étonné encore sur moi. Malgré cette attitude étrange, je continuais de parler. J'ai souffert, moi aussi, Paul. Il y a 2 ans, j'ai connu une femme qui, comme la tienne, est partie sans raisons apparentes. Eh bien, tu vois, je me suis remis. Cela n'a pas été sans de longs mois de souffrance. Mais il faut vivre et surtout ne pas se laisser abattre. Fernande a voulu ignorer ce qu'il y avait en toi de généreux. Elle s'est imaginée que tu voulais la tyranniser alors que tu ne cherchais qu'à la rendre heureuse. Paul, soudain, poussa la table afin de passer. « Viens, sortons, je ne peux plus rester ici. » Nous prîmes une rue déserte, à moitié blanche de lune, à moitié obscure de pierres mouillées, et nous ne traversâmes pas la chaussée pour marcher sur le trottoir baigné de clarté, comme nous l'eussions fait le jour de l'ombre au soleil. Nous longions les maisons. Seuls les réverbères du trottoir que nous suivions éclairaient. L'écho faisait que 2 autres passants nous précédaient et, chose étrange, 2 autres passants plus énergiques. « Que vais-je devenir ? » murmura Paul. Ce fut d'une voix si plaintive que mon ami prononça ces quelques mots que je craignis qu'il ne se laissât aller aux pires extrémités. Il était si déprimé que je sentis que si la pensée d'un crime avait jailli dans son cerveau, il ne l'eût pas écarté. Je voulus tenter encore de le réconforter. « Paul, sois fort. Cette femme n'est pas digne que tu souffres tant pour elle. Ne pense plus à ton malheur. Songe à l'avenir. Songe que tu as toute la vie devant toi. Allons, fais un effort. Viens, je vais t'accompagner jusqu'à ta porte. Tu rentreras, tu te coucheras et demain tu reviendras me voir. » « Rentrer ? Mais oui, il faut rentrer. Il est tard, tu as besoin de repos, tu as besoin de te remettre. » Nous nous trouvions dans une large avenue. La lune, plus haute, semblait plus froide parce que le soleil, à cette place, est plus chaud. Des arbres projetaient leur ombre sur les trottoirs. Nous marchions sur 1000 dessins de branches entrelacées. J'avais une velléité d'enfant à ne poser le pied que sur les espaces blancs, mais à faire cela, je n'aurais trouvé aucun plaisir. « Paul, il faut absolument rentrer. » Mon ami me prit par le bras, se pencha pour mieux me voir et murmura en entr'ouvrant à peine la bouche « Tu vas me quitter ? Il le faut bien, il est tard. Tu vas me laisser seul ? Enfin, nous ne pouvons pas rester toute la nuit dehors. » Alors, un tremblement agita sa lèvre inférieure. La sueur qui perlait déjà sur son front déborda des rides, dépassa les sourcils. Il lâcha mon bras, s'appuya contre un mur, soit pour ne pas tomber, soit pour sentir une présence ferme. Je compris combien il me serait difficile de le quitter. Bien que j'eusse eu pour lui une grande amitié, il me semblait maintenant ridicule de passer une nuit à le consoler. Si cela eût encore adouci son mal, je l'aurais fait. Mais, près ou loin de moi, il serait aussi malheureux. Et s'il tenait tant à ma présence, ce n'était pas dans l'espoir que je le réconforterais. Il savait bien que toutes mes paroles n'auraient modifié en rien la décision de sa femme. « Allons, Paul, il faut que nous nous quittions. »« Tu veux me quitter ?»« Oui, que veux-tu ?»« Non, Jean, je t'en supplie, ne fais pas cela. Seul, je ne sais pas ce que je deviendrai. » Je me tuerai. Je ne sais pas. » Il avait l'air égaré. Il ne faisait aucun geste. On eût dit qu'il ne souffrait plus, qu'il avait cessé de lutter contre sa douleur, qu'il se laissait glisser dans l'inconscience. À le voir ainsi, je me demandais si vraiment il était décidé à se donner la mort, si, par rancune, il croyait que j'étais seule cause de sa souffrance, ou s'il ne tentait pas de faire naître en moi un remords. « Oui, je vais en finir avec la vie, » murmura-t-il. Moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, j'ai pensé à me donner la mort, pourtant je n'en ai jamais rien fait. Pourquoi aurais-je pris cette menace au sérieux ? Dans quelques jours, il sera remis. Dans quelques jours, nous rirons tous les deux de cette aventure. Alors, à demain, Paul, sois courageux. » Ces quelques mots qui, selon moi, eussent dû nous laisser dans la même situation l'un vis-à-vis de l'autre, le tirèrent de son anéantissement. « Tu n'es donc pas mon ami ? Si, mais que puis-je faire maintenant pour toi? Montre de l'énergie. Ce n'est que par toi-même que tu pourras surmonter ta douleur.
Je le sais, Jean, mais aie pitié de moi. Ne m'abandonne pas.
Veux-tu me faire une grande joie? Restons ensemble jusqu'à demain.
Je ne veux pas être seul. Je ne m'en sens pas la force.
Je t'accompagnerai chez toi.
Je dormirai dans un fauteuil. C'est tout ce que je te demande. Tu ne peux pas me refuser cela.
Tu es ridicule. En quoi cela changera-t-il quelque chose?
Paul, soudain, de suppliant qu'il était, devint distant.
Tu veux donc me quitter, Jean?
Bien que je sentisse que mon ami avait pris une décision, je ne changeais pas d'attitude.
Mais oui, il est tard. Il faut que nous nous séparions.
C'est bon. Adieu.
Il s'éloigna sans même me tendre la main.
J'eus le pressentiment d'un malheur.
Je suis certain que tout le monde me ressemble, pourtant j'eus peur qu'il ne fît ce qu'il avait dit, qu'il ne se donnât la mort. Je criai « Où vas-tu ? »
Il ne répondit pas, marchant à grands pas.
« Paul !»
Déjà, un autre réverbère l'éclairait. Durant une seconde, j'entrevis les conséquences de mon refus.
Il allait se tuer. Toute ma vie, j'aurais conscience d'être responsable de sa mort. Et tout ce qui se passait dans ma tête se fit de plus en plus confus à mesure qu'il s'éloignait. Je courus derrière lui.
« Paul, où vas-tu ? »
« Laisse-moi. »
« Réponds, sois raisonnable. Pourquoi te sauver ainsi ?»«
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Laisse-moi, je vais en finir. »
Il marchait toujours, fixant son regard devant lui.
Tout à l'heure, tu n'as pas compris, Paul, ce que je disais. Allons, viens chez moi, demain, tout s'arrangera.
Il s'arrêta. Sans que je parlasse, en me regardant, il comprenait peu à peu ce que je venais de dire.
Il ne souriait pas.
Pourtant, son visage s'éclairait.
Je lui pris le bras et, sans dire un mot, nous nous dirigeâmes vers ma maison.
Une voiture qui se rendait aux Halles passa près de nous.
Dans la pureté de l'air glacial, elle laissa une odeur de légumes si précise qu'un pas que nous fîmes de côté nous en écarta.
Au milieu de la ville endormie, sous le ciel, nous étions seuls. La lune avait disparu.
Et sans elle, comme sans chef, les étoiles semblaient en désordre.